Soyez les bienvenus sur Vogue Radio. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Vogue, la station balnéaire en Pays Royanais et Marais-Oléron.
Chut, on écoute la télé avec l'espace culturel Leclerc, votre spécialiste, centre commercial Martrou à Rochefort.
Chut, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier en Charente-Maritime, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente-Maritime sur langélis.com. Vente sur place également à fond couverte.
Chut, on écoute la télé avec votre concessionnaire Volkswagen, avenue André Dulin à Marennes. Vente de véhicules neufs, occasion, réparation et location de California aménagée pour des week-ends en toute liberté.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé l'hebdo sur Vogue Radio, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé, en partie consacré à la sortie du film Mine de rien, qui sortira mercredi dans les salles. À cette occasion, eh bien, nous allons recevoir l'équipe du film aujourd'hui avec Mathias Méclus, le réalisateur, qui sera accompagné de Marianne Garcia dans un premier temps. Et en deuxième partie d'émission, c'est Arnaud Ducré et Mélanie Bernier qui viendront nous rejoindre pour continuer évidemment à en parler. Et c'est le grand retour de Léo Mattei pour une saison 7 inédite, jeudi sur TF1. C'est Jean-Luc Reichmann qui sera notre invité exceptionnel. Nous aurons le plaisir de recevoir aussi Fabrice Deville. Il joue le rôle de Florent dans la série ainsi Grand Soleil. Eh bien, il sera avec nous également pour en parler. Et dernière partie d'émission consacrée à l'animateur Jérôme Anthony qui se lance dans la chanson avec un album intitulé Chez Lorette avec des très très belles reprises des plus grands standards de la chanson française. Jérôme Anthony passera la fin d'émission avec nous et nous fera découvrir son album qui sort vendredi dans les bacs. Alors vous l'avez compris, c'est encore une émission chargée qui nous attend. On va tout de suite démarrer avec notre spécial Mine de rien, puisque Marianne Garcia et Mathias Méclus viennent de s'installer à mes côtés.
Les cinémas CGR de La Rochelle, l'Apollo Ciné 8 de Rochefort et l'Atlantique Ciné de Saintes vous présentent le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on démarre notre coup de cœur ciné cette semaine. Mercredi, ça sort dans les salles, c'est le film Mine de rien. C'est un coup de cœur qu'on a découvert à l'Alpe d'Huez et on a beaucoup de chance puisqu'on a le réalisateur aujourd'hui qui est avec nous, Mathias Méclus. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et accompagné de Marianne Garcia, que vous avez peut-être pu découvrir dans le film Les Invisibles de Louis-Julien Petit, qu'on avait beaucoup parlé nous aussi dans notre émission. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. On recevra Arnaud Ducré et Mélanie Bernier qui viendront nous rejoindre tout à l'heure également en deuxième partie. Mathias, déjà en quelques mots, je crois que ce film a été, je sais pas si on peut appeler ça un parcours du combattant, mais il y a beaucoup d'années, je crois que tu travailles dessus.
Oui, L'idée, on a commencé à travailler avec Philippe Rebaud dessus il y a 8 ans. On a trouvé le producteur Marc Etienne il y a 6 ans, voilà. Et depuis 6 ans, on a écrit 10 versions de ce scénario. Voilà, on a cherché des producteurs, des financiers. Et enfin, ça s'est fait l'année dernière, fin 2018.
Enfin, j'oserais presque dire.
Oui, enfin, c'était limite. Moi, je commençais à en avoir marre. Quand on a un projet qu'on garde trop longtemps comme ça, on se dit bon ben voilà, si personne n'en veut, ben on va le mettre dans un tiroir. Et puis finalement, Orange Studio a aimé le scénario et a accepté que je réalise ce film. Et voilà, ça s'est fait.
L'histoire en quelques mots.
En quelques mots, ben, c'est un groupe de chômeurs. Ils vont décider d'aider quelques vieux mineurs à garder une mine en l'état, alors que la mère veut la détruire. Et pour ce faire, ils vont la transformer en parc d'attractions.
J'espère qu'elle sera pas réélue en mars prochain, celle-là, hein, parce qu'elle est détestable, hein, la mère, hein, dans le film.
Moi, je trouve l'actrice formidable.
L'actrice, ben, c'est pour ça qu'on la déteste, d'ailleurs. C'est parce que l'actrice est exceptionnelle.
Oui, c'est très bien joué par Rebecca Finney. Moi, je la trouve vraiment exceptionnelle.
Comment vous êtes arrivée, Marianne, dans cette histoire?
Ben, dans cette histoire... simplement parce que Mathias, je pense, m'avait repéré dans Discount ou Les Invisibles. La casteuse m'avait proposé un petit rôle, la dame qui poussait le chariot, et puis il a vu les dégâts que j'ai dû faire avec cette petite scène. Il s'est dit non, on va pas la prendre, mais on va peut-être la prendre pour une plus grosse. Et puis voilà.
C'est là que Bernadette est arrivée.
C'est là que Bernadette est arrivée, avec ses gros sabots et puis sa bonhomie. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu des scènes particulières qui vous ont ému, Marianne, ou qui vous ont touché plus particulièrement à jouer?
Ému, c'est la scène où mon gamin se retrouve à la police, quoi, hein, avec Voilà, celle-ci m'a beaucoup touchée parce que le gamin étant un grand acteur, vous savez, Philippe, c'est un personnage à lui tout seul. Hein. Celle-ci m'a beaucoup émue. Et après, je vais pas parler de moi, mais je vais parler d'Hélène Vincent dans sa chariote avec son Rufus. Ça m'a émue profondément. Elle est merveilleuse. Puis on voit que c'est des gens, ils ont le regard, ils ont, il n'y a pas besoin de parler.
Hélène Vincent est incroyable de justesse dans le rôle et il y a des scènes avec Arnaud Ducret effectivement qui sont très 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 touchantes.
Oui, moi je suis fan d'Hélène Vincent depuis toujours. Quand je lui ai proposé le rôle, j'avais peur qu'elle le refuse parce que le rôle parle peu. Elle a accepté, et voilà, elle a fait ma joie dans ce film. J'ai adoré travailler avec elle. Et je suis très très heureux de ce qu'elle fait dans le film.
Comment vous avez choisi vos comédiens justement, Mathias? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi Arnaud Ducret? Pourquoi Mélanie?
C'est le cœur qui parle, hein, c'est l'envie de travailler avec ces acteurs-là. Voilà, Arnaud, je le connaissais, je soupçonnais le potentiel tragique qu'il pouvait avoir, parce que dans le film, il joue un personnage qui est pas comique. Or, on l'a beaucoup vu au cinéma dans des personnages comiques, et je soupçonnais son potentiel tragique. Je me suis pas trompé, pour le coup, je le trouve éblouissant dans le film.
Vous avez montré un peu cette facette-là dans Monsieur Je sais tout, d'ailleurs. Et il est vrai qu'il est exceptionnel parce qu'on peut le mettre dans n'importe quel état, Arnaud. Ça passe.
Oui, il a une force physique, une puissance, une présence époustouflante. Non, moi, il m'a vraiment bluffé. Et puis les autres aussi. Mélanie, moi, je la connaissais comme comédienne aussi, pareil. Je cherchais une comédienne pétillante, une énergie constante, et une joie de vivre. Et elle a tout ça directement. On ne se pose pas la question. Voilà, et donc ça a été assez évident. Et les autres acteurs, Marianne, elle vous l'a dit, moi je m'en souviens très bien, elle avait une toute petite scène dans Discount. C'est pas Les Invisibles, Marianne, parce que moi je t'avais pas vu dans Les Invisibles, L'Invisible est sorti après. Moi je t'avais vu dans Discount, t'avais une toute petite scène, et vraiment elle m'avait frappé. Et quand je l'ai revue, quand j'ai vu, elle m'a dit, ah, c'est cette comédienne. Et tout de suite, j'ai dit, ah, on peut essayer dans le rôle. Et voilà, on a fait des auditions ensemble, et ça s'est très très bien passé. Et voilà, après, c'était un très grand plaisir de diriger Marianne.
Comment est venue l'idée, justement, de faire reconvertir un peu ces chômeurs en leur faisant monter une fête foraine? Pourquoi une fête foraine?
Alors là, ça c'est compliqué.
C'est un inconscient enfantin qui ressort.
Oui, parce que en fait, voilà, c'est l'inconscient de l'enfant. Parce que enfin, moi, j'ai mon grand-père était mineur. Il est descendu à la mine à 13 ans et enfant. Donc, j'avais toujours ces histoires de la mine. Et donc, habitant Lens, on avait les mines en dessous de nos pieds. Donc, 24/24, il y avait des gens en dessous de nous qui travaillaient. Il y avait des wagonnets qu'on remplissait de charbon. Donc, il y a tout ce fantasme là de wagonnets sous terre, sous des rails. Et je sais pas comment. Moi, j'ai toujours aimé les fêtes foraines. Dans mon enfance, sur la petite place de la ville, on installait une fête foraine une fois par an, et c'était un vrai bonheur d'aller voir les manèges en construction. Et comment après les constructions, on avait la fête avec les lumières. Encore aujourd'hui, je vais à la Foire du Trône à Paris avec joie. Hein. J'adore cette ambiance de fête foraine. Donc, et je suis un fan de manège aussi. Donc voilà, c'est venu un peu naturellement, je dirais, avec l'écriture, avec Philippe Rebaud, de se dire, Et puis c'est vrai que ces friches industrielles, elles ont quelque chose de très poétique. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis j'aime le génie ouvrier. Moi, je trouve que j'ai vu beaucoup d'ouvriers sur les chantiers s'amuser avec une vieille bétonnière ou avec un tractopelle. Enfin, il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui circulent et ça m'a beaucoup inspiré.
Marianne, comment vous avez ressenti les premières projections, les premiers retours du public, comme à l'Alpe d'Huez par exemple, puisque là c'était une des premières projections. Alors comment on ressent ça et comment on retient un peu son émotion, quoi?
Moi je m'y attendais. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Moi je savais. Je savais parce que c'est mon vécu, c'est mon or. Je sais comment les gens vont réagir. Et je sentais que je l'ai vu deux fois avant, deux ou trois fois même. J'ai ressenti une puissance. Mais celle que j'ai ressentie juste au début, quand la musique a commencé, j'ai dit, putain, lui, il va cartonner.
Ah ouais, parce que alors, la musique, ça, on va en parler, hein, Mathias. Mais là, c'est un point très, très fort du film. Des musiques absolument magnifiques.
C'est chez nous, merde. Et j'ai dit, oh là, lui, c'est bon, on s'embête pas, on fait sa vie, on regarde. Et là, je savais que les gens allaient accrocher.
La musique d'El Schnorr.
Le Schnorr, et puis il y en avait quand même pas mal, hein, des chotomies, hein, dans la salle. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en avait beaucoup. Et là, j'ai dit, c'est parti, c'est chez nous, c'est nous.
Mathias, comment vous avez choisi justement les musiques? Déjà la musique d'entrée, quoi. Et...
Alors la musique d'entrée, elle vient de, c'est Christian Auriol. Elle vient d'un album qui s'appelle Cri et chant de la mine. C'est un album qui existait dans la discothèque familiale, donc mes parents écoutaient beaucoup, surtout mon père. C'est un 33 tours qui m'a beaucoup bercé dans mon enfance. Et j'aimais beaucoup la voix de Christian Auriol. J'aimais ses chansons qui sont un peu révolutionnaires, hein. Ces chants de grève, chants de combat. Pour moi, ça a été une évidence d'un seul coup quand j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, quand j'écrivais, j'avais ces chants-là dans la tête. Et puis donc c'était naturel de les mettre. Et après, il y a eu un travail magnifique de Mathieu Gonnet, qui est compositeur du film, il a aimé le film. Déjà, ça, je pense que ça aide beaucoup quand on fait la musique.
Un super compositeur, hein, que les fans de Astarac se souviennent bien évidemment.
Voilà, c'est un super compositeur. Il est très doué, il a beaucoup de talent. Il a fait en sorte que les scènes accèdent à un niveau d'émotion conséquent.
Marianne, après Discount, Les Invisibles, Mine de rien. Est-ce que ça ouvre la porte? Est-ce que c'est une nouvelle vie de comédienne là qui se dessine?
La comédie, pour moi, c'est tous les jours. C'est quand je rentre chez moi que je fais ma lessive, mon repassage. Non, c'est on verra.
Il y a des projets là à venir encore?
Non, pour l'instant, non. Mais oui, je suis open bar, moi.
Après le 26 février, je suis sûr que ça va ressonner, moi je vous le dis. En tout cas, le film, ne le ratez pas. C'est le 26 février au cinéma, c'est après-demain. Comment on se sent, dernière question, à deux jours de la sortie, là, Mathias?
Ah ben, anxieux. Je sais pas, j'ai beaucoup d'espoir, hein. J'espère que ça va marcher. Voilà, maintenant, on verra bien. On verra.
On va écouter la bande-annonce tout de suite, mine de rien. Ça sort mercredi dans les salles.
Bonjour, 100 euros, s'il vous plaît.
Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes.
Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot.
Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie.
Une mère à qui je donnais les somnifères pour sortir le soir.
Mais il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer le sang de ton père.
Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrais plus tolérer votre occupation.
Et qu'est-ce qu'on propose à notre âge?
Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il n'avait plus à construire un parc d'attractions, gamin.
C'est une super idée.
C'est complètement con.
Bah, toi, tu sais construire un parc d'attractions, là?
Vous savez quoi? Vous me faites chier, vous êtes mou. Vous allez finir comme deux glands et ce sera bien fait pour vous.
Madame le maire,
avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël.
Qu'est-ce qu'on voulait la donner?
Je vois pas de quoi tu parles.
Vous savez combien ça peut vous coûter, une dégradation de bien public? Je ne laisserai pas détruire ma ville.
Qu'est-ce qui se passe, Tic-Tac? Vous voulez faire partie de l'aventure?
On travaille, nous.
C'est pas flagrant.
Mine de rien, ça sort mercredi au cinéma. C'est Arnaud Ducré et Mélanie Bernier qui vont nous rejoindre dans un instant. Merci Mathias, merci Marianne d'être venus nous voir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et on va marquer tout de suite une petite pause et on revient donc dans un instant avec nos deux comédiens.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Et toute l'info sportive de votre week-end, tout de suite, c'est Vogue Radio Sport.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va continuer bien à parler de ce très beau film, Mine de rien, qui sort mercredi dans les salles. C'est notre coup de cœur. Et après avoir accueilli réalisateur, évidemment, et Philippe, eh bien, c'est Arnaud Ducré et Mélanie Bernier qui nous rejoignent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est un bonheur de vous avoir, puisque ce film est à la fois une véritable bouffée d'oxygène, un film d'espoir, je pourrais presque dire, à travers vos deux personnages, eh bien, qui tentent bien de se sortir de ce chômage dans lequel ils ont été plongés tous les deux.
Alors moi, je suis pas au chômage et justement, je suis celle qui va insuffler un petit peu l'énergie.
L'impulsion.
Moi, je suis un peu celle qui va bousculer un peu tous ces gars qui se lamentent un peu sur eux-mêmes et n'arrivent pas à se sortir de la condition dans laquelle la vie, le chômage, les difficultés qu'on peut tous rencontrer à des moments les ont emmenés. Et donc, elle va leur mettre un petit coup de pied aux fesses.
Qu'est-ce qui t'a plu, Arnaud, dans ce scénario? Puisque t'as fait beaucoup de comédies, là, on te voit dans un rôle un peu plus grave. À la fois, est-ce que c'est ça qui te plaît aussi? De changer un peu de registre?
Alors, tu sais que quand j'ai tourné le film, mon agent m'a dit « T'as vu, c'est marrant, parce que pour une fois, c'est pas toi qui fais a priori le vecteur comique. » Et je lui dis « Ouais. Oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas fait gaffe. » Et c'est vrai, je t'assure, c'est qu'en fait, je m'attarde pas sur le rôle, c'est que c'est toute l'histoire, en fait, qui me plaît vraiment au début. Et puis, bah, il y avait un truc très poétique, hein, que Mathias a amené dans ce film. Mathias, qui est quelqu'un de très sensible, très doux, beaucoup de classe, j'aime beaucoup ce mec, et la poésie de ce film s'est ressentie pendant le tournage. Je suis content et fier de moi de ne pas m'être encore trompé en lisant un scénario, en tout cas me dire tiens, j'avais vu ça et à l'écran c'est ce que j'ai lu. Voilà, en bien mieux encore.
Quand on regarde ce film, on peut pas ne pas penser, moi j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde à l'Alpe d'Huez, pour le coup il a été projeté il y a quelques semaines, on ne peut pas ne pas penser aux Invisibles de Louis-Julien Petit. Est-ce que vous aviez vu le film, Les Invisibles ?
Ouais, tout le monde, bien sûr, fait le parallèle, parce qu'en fait, ce sont des films qui sont dans l'air du temps. Louis-Julien Petit, avec Discount en premier, puis avec Les Invisibles, a lancé ce cinéma qu'on appelle un peu comédie sociale, et mine de rien, n'est pas, enfin, quand Mathias, le réalisateur, a commencé à écrire le film, Discount n'était pas sorti. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a pas de lien, mais c'est parce qu'en fait, ces metteurs en scène-là, ces auteurs-là, sont sûrement sensible à ce qui se passe autour d'eux. Voilà, je pense, tout simplement.
Ouais, alors c'est vrai que ça fait... Moi, j'avais lu le film il y a 6 ans, mais c'est vrai que c'était déjà très bien, il était un peu plus long quand me l'avait proposé Mathias. C'est vrai que ça fait résonance un peu avec ce qui se passe en France, que le pays va pas très bien.
Il est tellement d'actualité et tellement dans l'air du temps, ce film.
Il est tellement malheureusement d'actualité, on va dire, mais bon, pour nous, ça résonne peut-être plus pour les gens, donc tant mieux si le film parle aux gens, mais c'est vrai que c'est ce qui résonne, je trouve, avec maintenant, c'est une espèce de recherche de dignité que ces gens n'ont plus, en fait, délaissés par l'État, délaissés par voilà, ils veulent retrouver un peu de sociabilité et aussi de sociabilité professionnelle, voilà, donc c'est un film qui donne espoir et qui est très positif, quoi, et ça c'est cool.
Autre scène qui a été la plus marquante, peut-être, à tous les deux, Mélanie?
Je pense que c'est les scènes de fête foraine la nuit, parce que j'avais très froid. j'y suis un peu tombée malade sur le tournage, ça m'était jamais arrivé de ma vie, ça m'a un peu traumatisée, et vraiment, à un moment donné, ils ont carrément pas pu faire un plan avec moi, tellement je suis devenue un glaçon, quoi. J'étais vraiment pas bien. Du coup, je pense que ça m'a quand même pas mal marquée, parce que normalement, vous savez, dans la vie, on s'effondre jamais quand on fait les choses. C'est après. Et là, je ne sais pas, j'avais eu un petit bébé, je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi. Mais le froid, le nord, je me suis dit, purée, je suis une bonne actrice parce que je suis vraiment pas une fille du nord. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas du tout les reins solides pour affronter ces villas, tout simplement.
Les scènes de fête foraine de la nuit, et toi, Arnaud?
Il y avait la scène que je trouvais assez jolie et très symbolique. Il y a beaucoup de symboles d'ailleurs de très bien réalisés. Quand ma maman a dans une boîte de Benko les cendres de mon père, elle garde, elle conserve ça dans sa boîte de Chopic. Et je vais libérer les cendres à un moment dans le film, tout en haut d'un terri, qui est assez symbolique, où je libère les cendres et je donc me libère d'un poids. Et je trouvais cette scène, par exemple, je l'ai trouvée très jolie. Et à l'écran, elle est jolie. Elle est belle, elle est pleine d'émotions et j'aime bien cette scène.
Comment il est Mathias en tant que réalisateur? Parce qu'évidemment, on le connaît en tant qu'acteur, spectateurs, hein, ou même journaliste. Mais il est comment?
Formidable. Vraiment, alors c'est pas parce que je suis en promo, mais vraiment, moi je ne le connaissais pas du tout, puis j'ai pas eu beaucoup le temps de le connaître avant le début du tournage, parce que je suis arrivée un peu au dernier moment sur ce projet. Mais d'abord, c'est un comédien, donc je pense qu'il sait ce que c'est qu'être acteur, la fragilité dans laquelle on peut être, les stress dans lesquels on peut être, donc c'est un très bon directeur d'acteur. Et puis c'est un personnage assez étonnant, il est aussi naturopathe, donc moi qui étais malade par exemple, il m'a beaucoup soignée, enfin voilà. Le film est très poétique et Mathias est une poésie à lui-même. C'est quelqu'un même qui... C'est très étrange d'ailleurs, ça, quand on lui parle, il rigole tout le temps, mais on ne sait pas pourquoi, hein. Des trucs vraiment pas drôles. Il sourit tout le temps, c'est un être très à part. Et son film, c'est ça, il y a quelque chose de très grave dans son film, et pourtant on a toujours le sourire aussi au bord des lèvres, quoi.
C'est un film lumineux. Ouais. Voilà, faut pas croire qu'on va aller voir un film qui verse dans le pathos, pas du tout, au contraire, c'est un film très très lumineux que vous allez aller voir mercredi au cinéma, je l'espère.
C'est un film positif, moi.
Comment tu le ressens, toi, Mathias, sur un tournage?
Mathias, pareil, c'est un peu ce que disait Mélanie, mais il est solaire, quoi, puis il est tout souriant, il est très doux, il dit les choses avec beaucoup de délicatesse, il est comédien, c'est un très bon comédien avant tout, et donc il sait diriger les acteurs parce qu'il sait comment leur parler. Parce que voilà, il le fait avec beaucoup de tact et il nous dit les choses qu'il faut. Donc ça nous aide beaucoup. Pour nous, c'est assez rapide. C'est un gain de temps.
On va terminer par vos projets. Mélanie, pour 2020, qu'est-ce qui nous attend avec toi?
Eh bien là, je suis au théâtre à partir du 4 mars dans un Marguerite Duras, une pièce qui s'appelle Le Square avec Dominique Pinon. Ouais, quelle chance, je pense que la plupart des gens le connaissent, mais pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des acteurs fétiches de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, Délicatessen, Alien, enfin entre autres, et immense acteur de théâtre. Donc voilà, je serai au Lucernaire à 19h à partir du 4 mars.
Le rendez-vous est pris, Mélanie. Arnaud, les projets, alors il y a eu la chanson secrète en début d'année, tu nous as fait chialer. C'est pas bien ça.
C'est bien fait hein, cette émission parce que alors là ils m'ont cueilli quoi. J'étais agréablement. C'est toujours pareil quand tu vois les gens de ta vie, ta maman, tout ça qui tout d'un coup arrive sur le plateau télé. C'est tellement pas son monde que tout d'un coup ça devient hyper touchant. J'ai revu des potes de longtemps. Puis alors tu me mets Man in the Mirror de Michael Jackson, autant te dire que c'est parti déjà quoi. Donc non, c'était un beau cadeau, un très beau cadeau qu'on m'a fait. Et puis Divorce Club qui sera en mars au cinéma.
Dans un mois. Et on te retrouvera dans notre région d'ailleurs le 4 mars. Quand Mélanie sera au travail, eh bien toi tu seras chez nous à La Rochelle, au Méga CGR de La Rochelle pour présenter Divorce Club avec Mickaël.
Je suis très fier de ce film. Vraiment, c'est deux entités différentes, mine de rien, et Divorce Club sur le comique, l'autre est beaucoup plus Divorce Club est beaucoup plus clinquant, beaucoup plus humour populaire, mais très drôle. Je suis très fier de ce film. Et donc
tu viendras en parler dans un mois de toute façon. Alors, ne t'inquiète pas. Tu vas passer le premier semestre avec nous.
Non, c'était juste pour dire voilà à quel point j'en étais fier, mais et puis je fais le père de Grégory Lemarchal pour TF1 en ce moment.
Je joue le rôle de Pierre.
Voilà, je joue le rôle de Pierre Lemarchal et avec Mickaël Lumière qui est formidable en Grégory. Il y a un beau biopic qui est en train de se tourner pour TF1 quoi.
Merci à tous les deux. On va se quitter avec un petit extrait à nouveau de Mine de rien, ça sort mercredi au cinéma. À très vite.
Merci.
À très vite pour toi surtout Arnaud et à très vite Mélanie j'espère.
Merci beaucoup.
On est à plus de 280 likes les enfants.
Et où votre manège là?
Vous êtes dessus.
C'était génial. J'ai pas été viré, c'est pas le jour du RSA.
Mais vous êtes plus à la recherche d'un emploi puisque vous construisez votre parc. Puis il y a l'URSSAF aussi à payer hein.
Super message.
Ah bon ?
Il y a même un Russe qui veut nous copier. Il veut construire un train fantôme à Tchernobyl.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé cette semaine consacrés au grand retour de Léo Mattei pour une 7e saison inédite. Et quasiment comme tous les ans, on a beaucoup de chance puisque Jean-Luc Reichmann est avec nous pour ce lancement. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et on est tellement heureux de retrouver, je dirais presque, ce héros qui milite pour la défense des enfants, la défense des mineurs. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, hein, Jean-Luc.
Oui, bien sûr, parce que je pense qu'il faut vraiment faire de la prévention par rapport à tout cela, par rapport à nos enfants. Sur la première soirée que vous allez voir jeudi soir, ce sont les défis qu'ils ont faits entre jeunes, entre adolescents. Et vous savez qu'il faut vraiment faire attention lorsque nous ne sommes pas présents. C'est là où il y a des petits soucis. Donc il faut essayer de garder son contact avec les enfants par l'intermédiaire du dialogue, si l'on peut. Et faire attention à tous ces réseaux sociaux qui peuvent devenir des fléaux sociaux. Et le plus important, bien sûr... Et c'est qu'il ne se laisse pas emporter par un tourbillon. Donc il faut essayer de continuer le dialogue. Et là, on est la main dans la main avec les jeunes. Maintenant que Léo Mattei a retrouvé sa fille, il y a effectivement il y a la théorie et puis il y a la pratique. Donc c'est vrai d'avoir, comme vous le savez, des convictions en tant que commandant de la brigade des mineurs. Après, Léo Mattei, maintenant, il va falloir qu'il se débrouille avec sa fille. Et vous allez voir que c'est pas si facile. Les rapports père-fille, ça c'est très compliqué. Mais je pense que chaque maman, avec leurs enfants, vont être touchés par ces épisodes de jeudi soir. Parce que le fait est que nous sommes réellement sur cap ou pas cap, sur des défis et surtout jusqu'où une maman peut aller pour protéger ses enfants. Ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et je pense que vous apprécierez parce que... cette sensibilité-là d'une mère pour un enfant, c'est la protection de l'enfance, c'est la protection de ses enfants. Vous, si vous avez un enfant qui fait une bêtise, vous allez jusqu'où? Eh bien, Léo Mattei, il va jusqu'au bout.
Alors, on va retrouver des guests, puisque cette saison va être sous le signe de retrouvailles, avec un personnage incarné par Florence Pernel. Il y aura Lenny Kim également, durant cette saison. Beaucoup de guests qui seront présents pour ces quatre épisodes qu'on va découvrir.
Oui, bien sûr. Florence Pernel a été magnifique dans le bazar de la charité il n'y a pas si longtemps. Elle incarne merveilleusement bien la maman de Lenny Kim. Lenny Kim que j'ai rencontré sur Danse avec les stars où j'ai animé une soirée il y a 2 ans de cela. Il avait 16 ans, même pas, 15 ans et demi, 16 ans. Il est arrivé en finale, comme vous le savez, de Danse avec les stars. Et j'ai dit, ce garçon, il est extraordinaire. Alors c'est un peu une culture à l'américaine parce qu'il sait tout faire. Il chante, il danse. Et là, c'est son premier grand rôle, Lenny Kim. Et vous allez voir... je pense que vous allez être totalement bouleversé par Lenny qui, a mis le pied dans la porte de la comédie, comme j'avais mis Slimane à l'époque dans des épisodes précédents. C'était son premier rôle. Et ben là, voilà, c'est le premier rôle, le vrai premier rôle de Lenny qu'on avait vu un peu dans Demain nous appartient. Mais là, vous allez voir, il est transcendant.
4 épisodes seulement cette saison. Je sais que le planning doit être super rempli parce que vous êtes déjà à l'antenne tous les jours à midi sur TF1. C'est difficile d'arriver à en faire plus de 4 ou 6 par an.
Bah disons que l'année dernière, surtout en 2019, quand nous avons tourné C'est Léo Mattei qui arrive là jeudi soir sur TF1, j'avais également 130 dates au théâtre pour être en proximité avec les personnes qui viennent à la télé me regarder chaque jour. Et là, je me suis dit, je vais aller à la rencontre de toutes ces personnes en province. Et on a fait 130 dates avec Nuit d'Ivresse. Les gens étaient, je pense, touchés par ma venue, à leur contact. Mais c'était ma manière aussi à moi de les remercier depuis toutes ces années qu'ils m'accompagnent. Et donc, on a pu faire que 4 épisodes. Mais en même temps, Léo Mattei est toujours bel et bien là. C'est la 7e saison, comme vous l'avez dit. Mais il est bel et bien là pour essayer de faire passer des messages et de ne surtout pas lâcher la main de nos enfants.
C'est ça qui est très bien. Alors il y a une dizaine de jours, il y a eu les 12 coups de cœur pour la Saint-Valentin. Je sais que vous êtes aussi proche des grands champions. Un champion qui nous a vraiment marqué, c'est Paul, évidemment, auquel le public s'est tellement attaché dans les 12 coups de midi. Et je sais que vous avez vraiment envie de continuer à faire quelques émissions comme ça, un peu exceptionnelles avec lui.
Oui, bien sûr, mais vous savez, Paul, il est venu me voir sur le tournage de Léo Mattei. Ça le démangeait, ça le fourmillait. Il est venu de Grenoble à Marseille sur le tournage. Et on a joué en plus avec un enfant qui est vraiment autiste. Puisque la deuxième soirée que vous verrez la semaine prochaine, jeudi 5 mars, à 21h sur TF1, ben, ça touche de plein fouet un enfant, mais un enfant qui est atteint de troubles autistiques. Parce que c'est mon combat, quelle que soit la différence des enfants. J'ai souffert, moi, et vous le savez, quand j'étais enfant, avec ma tache sur le nez. Un prof, quand j'étais adolescent, m'a dit la tache au tableau devant 30 élèves. Donc à partir de ce moment-là, c'est le respect à l'enfant et à quelconque différence qu'il soit, qu'il ait vécu, qu'il ait souffert, tout comme moi. Et je me suis dit qu'à un moment, eh bien voilà, il fallait prendre la parole pour nos enfants et essayer de faire passer ces messages pour la défense des enfants. Mais qu'ils soient enfants ou adolescents, on est main dans la main avec les ados et vous verrez ça déjà dès jeudi soir.
Alors la particularité aussi de Léo Mattei, c'est que c'est un peu une histoire de famille aussi. Je sais que vous travaillez très entouré, ensemble, en confiance avec la productrice Nathalie Lecoultre, bien évidemment aussi. Et voilà, c'est vraiment une histoire vraiment en famille quelque part aussi, Léo Mattei. C'est peut-être aussi ça le secret de la longévité et du succès.
Bah, disons, vous savez, moi j'ai jamais produit pour les autres. Je me sens en plus un artisan et j'essaye de faire les choses à fond, je suis un peu un perfectionniste. D'autres personnes arrivent à produire des émissions. Moi, je produis pas pour produire, je fais pas pour faire. Je fais des choses dans lesquelles je suis totalement investi. Artistiquement parlant, hein, je parle. Après, les contrats, l'argent, tout ça, ça m'importe peu. Je veux juste, à un moment, être en accord avec la qualité que l'on propose aux téléspectateurs, aux spectateurs ou aux auditeurs, comme on vous écoute là en ce moment. C'est d'aller au plus profond et de faire les choses à fond. Donc effectivement, je travaille pas mal avec des gens que j'aime et je laisse les portes ouvertes aux jeunes avant tout.
Exactement, c'est ça la différence. Alors, Léo Mattei, ça démarre jeudi pour une saison 7 inédite. Lundi prochain, on aura beaucoup de chance puisqu'on recevra Mathilde Lebrequier et Maïra Schmidt qui joue votre fille. Là aussi, beaucoup de scènes avec Maïra qui joue votre fille Héloïse qui nous ont beaucoup émus, notamment lors des retrouvailles entre le père et la fille. Donc ça, on en parlera évidemment avec elle aussi lundi prochain, évidemment.
Avec grand plaisir, et ça me fait vraiment plaisir que vous laissiez la parole à ma fille, qu'on reverra donc avec grand plaisir ce jeudi, parce que c'est une femme extraordinaire. Là, elle joue dans Capitaine Marlowe, vous allez le voir. Donc c'est une fois de plus sa place aux jeunes, et je suis très très heureux parce que moi, ça fait plusieurs années que je tourne avec elle, et que j'ai dit que ce serait une grande comédienne, et à ce moment où je vous parle, je suis très très fier d'elle.
Et nous, on a hâte de la recevoir lundi prochain avec Mathilde. Merci Jean-Luc. Merci. Et puis, on n'oublie pas, évidemment, hein, à midi, le rendez-vous est pris. Nous, on y est hein, tous les midis. À midi, c'est les 12 coups de midi sur TF1.
Ah, c'est vous. Je me demandais qui est-ce qui regardait.
C'est ça, exactement. Merci Jean-Luc, à bientôt.
Merci beaucoup. Commandant Mattei, brigade des mineurs. Docteur.
Commandant. Hugo Delage, 17 ans. Cervicale fracturée. 20 mètres de haut, c'est comme 10 étages. Hein. Si on n'est pas entraîné à ce genre d'exercice, ça pardonne pas.
Hugo était un ado sans problème.
Et la famille ?
Prévenue. J'ai eu sa mère au téléphone. Elle bosse à Aix. Elle sera à l'IML. Elle comprend pas.
Son fils n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc. Il devait éviter les sensations fortes à cause d'une malformation cardiaque.
Le père ?
Décédé d'une crise cardiaque justement il y a 2 ans. Les témoins sont tous dans le même lycée que la victime.
Allez, coup de cœur télé consacré à la série Ainsi Grand Soleil. Hein. Vous savez que les comédiens viennent régulièrement dans notre émission. Et on aime bien, bien mettre les personnages un petit peu à l'honneur chaque semaine. Et nous avons la chance d'avoir Fabrice Deville avec nous aujourd'hui. Bonjour mon cher Fabrice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu joues le rôle de Florent. Enfin, j'oserais dire, Claire Estrella a-t-elle trouvé le bon ?
Écoute, comme ces séries-là sont quand même très proches de ce qui peut se passer dans la vie et en exagérant évidemment certains traits de la vie, justement, sinon ce serait un petit peu plat, mais la vie elle n'est pas plate, est-ce que c'est le bon ? On n'en sait rien.
Il a failli être accusé de plein de choses, mais elle, elle a toujours défendu becs et ongles finalement, Claire, hein, quand même. Hein.
Ouais, ouais, on a une belle histoire tous les deux. On s'est bien trouvé, on s'est bien entendu. Elle a cru en moi. Moi, j'ai été obligé de mentir à un moment parce que je savais pas comment me dépatouiller. Ce que j'aurais fait moi dans la vie. Après, évidemment, les situations se poussaient à l'extrême. Mais oui, on a une belle histoire. Et après, je ne sais pas, pour répondre à ta première question, si ça va durer ou pas, si on va pas avoir un coup de canif dans le contrat.
Ça peut arriver. Tout peut arriver dans une série quotidienne.
Tout peut arriver, mais en tout cas, elle croit en moi. Et puis là, je sais même pas si on vit ensemble, parce que chacun vit un petit peu sa vie, mais on est ensemble. Et puis moi, je suis avec mes histoires de plaidoirie, avec d'autres acteurs qui ont besoin de mon aide. Mais on s'entend bien avec Claire, on est bien tous les deux.
Et oui, d'ici quelques mois, tu vas devoir venir en aide à notre médecin-chef à l'hôpital, évidemment, Jeannette. Ça, on en reparlera également avec Tonia. Mais pour le coup, toi, comment t'es arrivé dans cette série ? Dans un si grand soleil, on t'a vu dans Candice Renoir, on t'a vu dans Clem, on t'a vu dans Section de Recherche, dans Cassandre. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans un si grand soleil à la base ?
Alors moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, ce que tu disais, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, et en fait, le seul épisode où je pouvais vraiment appeler des copains pour leur dire je suis vraiment dans tout l'épisode, c'était Section de Recherche, par exemple, sur TF1, réalisé par Jean-Marc Thérin. Et en fait, on m'a toujours donné des petits rôles. Mais depuis 20 ans, ça marche comme ça, avec des petits rôles. Et quand on m'a dit, Johanna Delon, la casting me dit, il y a une série. Alors tout au démarrage, j'ai dit non, tout au début. J'ai dit non parce que j'avais d'autres projets, donc je pouvais pas y aller. Et on m'a rappelé, j'ai fait des essais pour un rôle de braqueur de banque, ça n'a pas marché. Et on m'a rappelé, on m'a dit voilà, rôle récurrent, est-ce que ça te dit ? Et je me suis dit, voilà l'occasion d'amener un personnage, de prendre ses marques. Alors j'y suis allé de façon, je dirais, peut-être un petit peu lisse au démarrage. Donc on y va, on découvre un peu, voilà, il rentre dans la série, mais ça se prêtait très bien même au niveau du jeu avec mon fils. Je rencontre une nana, je vais pas commencer à faire le coq. Donc on s'est rencontrés, on était amoureux avec des maladresses et des incertitudes, et puis en fait on met en place un personnage.
Alors évidemment, Enzo a été au cœur de nombreuses semaines d'intrigues avec sa babysitter. Donc on a longtemps cru que c'était Florent qui l'avait poussé. Et donc effectivement, quelle est cette relation que tu peux avoir avec le comédien qui joue Enzo ? Est-ce que vous êtes bien entendu tout de suite ? Comment le courant a passé entre vous ? Parce que c'est vrai que son rôle était très dur quand même au départ.
C'est un super bonhomme. C'est un super petit jeune qui a 17 ans et demi. On a été présenté à l'habillage et coiffure un matin.
Une journée avant le tournage.
Non, le jour même. C'est-à-dire que même j'arrive le matin, moi je suis assis, on me dit tiens, voilà ton fils. Donc je me retourne, salut. Et on me dit tiens, voilà ton ex-femme, Gaëla le DVA. Et donc elle arrive, bonjour, bonjour, on s'embrasse, on dit ok, on est la famille. On s'était pas vu avant et on tournait 5 minutes après où notre fils sort de chez le psy. Et on doit créer une scène de famille. Et en fait, ça a très vite matché. Et ensuite, on a eu des scènes avec Gaëla où on est en train de parler de l'avenir de notre enfant. Ça a très bien marché. Très bien marché. Et je félicite encore une fois Johanna Delon, la casting, et puis la production. Je l'avais dit d'ailleurs au producteur en lui disant mais bravo d'arriver à créer cette bonne harmonie, cette super symbiose entre les acteurs.
Donc ça va continuer évidemment, on va voir Florent évoluer tout au long encore peut-être d'intrigues futures qui viendront parsemer ce si grand soleil. Ton plus beau souvenir de ton âge peut-être sur un si grand soleil depuis que tu as démarré, ça serait lequel qui te viendrait tout de suite comme ça à l'esprit ?
Des scènes avec Claire de disputes ou de réconciliation ou de moi perdu et elle essayant de me réconcilier. C'est un ensemble de Claire, tu vois.
De Mélanie Modran qui joue le rôle.
J'ai oublié, je parlais là du personnage, mais oui, avec Mélanie. Avec Mélanie, il y a une bonne entente. Ouais, c'est vraiment super de tourner avec elle. On s'entend bien. Et c'était mes... Alors c'est toujours difficile de dire les plus belles scènes. Mais c'était, on a eu de jolies scènes à faire ensemble, mais aussi bien avec mon ex-femme qu'avec mon fils. Mais c'est vrai qu'avec Mélanie, c'est agréable. Puis c'est très pro, et en même temps on rigole.
Tu as des beaux projets pour 2020, à part Un si grand soleil? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent?
Écoute, te dire qu'il y a plein de choses qui arrivent, non, parce qu'il n'y en a pas qui arrivent. Bon, il y a je suis sur un projet où on n'est plus très nombreux. Mais ça, quand tu auras le temps de diffuser, je t'aurai déjà appelé pour te dire ça marche ou ça marche pas, je vais penser à t'appeler. Mais c'est des projets qui sont lourds, qui sont importants, et sur lesquels je suis. Donc c'est sûr que l'entonnoir se rétrécit un petit peu. Donc je devais tourner un film avec René Manzor, ça s'est pas fait parce que j'étais trop pris par Un si grand soleil. Donc il y en a d'autres. Il y a des gens aussi, d'autres productions qui me disent bah tiens, on compte sur toi, on aimerait bien t'avoir. Mais là concrètement, on va pas se la raconter. Il y a une chose importante. Et puis le reste est à venir.
Eh bien, écoute, c'est bien, c'est très très bien dit ça. Et ça sera un joli mot de la fin. Merci à toi Fabrice d'avoir été avec nous. Et Un si grand soleil, ne le ratez pas, c'est du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2. Merci à toi Fabrice, à bientôt.
Merci Alain.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et dans un instant, on va se retrouver pour la dernière partie de Chut, on écoute la télé, consacrée à la sortie du premier album de Jérôme Anthony, l'animateur vedette du groupe M6. Eh bien, se lance dans la chanson. Vous allez voir que c'est très réussi, c'est très jazzy, et en plus, c'est de très belles reprises des chansons qui ont fait vibrer les Français des années 60 à 80. On en parle dans un instant. On vous présente ce très bel album intitulé Chez Lorette avec Jérôme Anthony dans quelques instants. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. L'album de la semaine.
Et de retour pour la dernière partie de Chut, on écoute la télé. On va retrouver, eh bien, dans quelques instants, Jérôme Anthony qui va nous rejoindre à l'occasion de la sortie de son album qui sort vendredi dans les bacs. Mais juste avant, je vous en propose le premier extrait, eh bien, un petit extrait justement, le chanteur malheureux. Et on revient juste après.
Reverra. Et je me demande si tu te souviendras, si nous deviendrons simplement des amis et toutes ces choses. Mais tu as dû oublier qu'on s'était.
C'est notre album de la semaine puisque ça sort vendredi dans les bacs et il est avec nous pour en parler, c'est Jérôme Anthony. Bonjour Jérôme.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Là c'est une autre corde à ton arc puisqu'après avoir sorti deux bouquins, eh bien tu sors un album et cet album on va le découvrir avec le public vendredi.
C'est avec un grand plaisir que je vous le présente cet album parce que j'y tiens particulièrement, parce que j'ai mis du temps à le peaufiner, j'ai mis du temps à choisir les chansons des reprises parce que si j'avais dû ne pas choisir j'aurais fait un album avec 4 disques dedans. Voilà, et donc effectivement le principe c'est donc, comme j'avais fait il y a quelques années un livre sur la période des émissions de variété de Mariti Gilbert Carpentier, j'avais envie de reprendre des chansons que j'aime et de les embarquer dans l'univers des émissions des Carpentiers et notamment la période des Sacha Chaud, de Sacha Distel. Donc on prend toutes ces chansons, 70, 80, 90, Aline, Le ciel, le soleil et la mer, Les géants de papier, Pour le plaisir, Chez Lorette. On embarque tout ça dans l'écrin des chansons, comme auraient pu les chanter dans les années 60, fin 60, début 70, Sacha Distel.
C'est une période évidemment où tu as été bercé, hein, on imagine, par la musique de cette époque. Comment on choisit justement parmi tout le beau répertoire qu'il y a pu y avoir à cette époque-là, les chanteurs, comment on se dit, tiens voilà, celle-là j'ai envie, ça doit être dur de faire un choix.
J'ai pas pu prendre toutes celles que j'avais envie, parce que toutes celles que j'avais envie n'étaient pas adaptables dans ce style, mais on a forcé parfois, on a forcé un petit peu la machine pour pouvoir prendre des chansons que j'avais vraiment envie de reprendre. Par exemple, quand je reprends Chez Lorette, c'est une évidence. Parce que déjà, j'ai une petite histoire avec Delpech et que c'est quelqu'un que j'ai connu jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Et puis, j'adore cette chanson. La chanson est tellement belle, tellement actuelle, tellement tout. Et je trouvais que la version qui tourne aujourd'hui, qui date de 67, je crois, si je me trompe pas, elle a un petit coup de vieux. Bon, ben voilà, c'est normal, hein, elle date de l'époque. Et j'ai toujours trouvé qu'elle était un peu lente. Toujours trouvé aussi, bah c'est que mon point de vue, hein. C'est pas un reproche, que je sais pas général, c'est mon point de vue. J'ai toujours trouvé que c'était une chanson joyeuse en fait, parce que le mec se rappelle d'une période et c'est vrai que quand lui il la chante, on voit qu'il sourit. Et j'ai trouvé que la manière dont elle était orchestrée était très triste. Voilà. Donc alors celle-là, j'avais très envie de la reprendre en swing depuis hyper longtemps. Voilà. Donc Chez Lorette, super belle chanson et c'est tellement agréable de pouvoir se servir comme ça et de prendre un monument comme ça de la chanson. Ensuite, par exemple, pour le plaisir, bah, il y a 2 ans, je fais l'émission du meilleur pâtissier avec Julien Lepers notamment. Je commence à lui faire écouter les maquettes. Il me dit, mais
pourquoi... c'est lui qui l'a écrit cette chanson.
Il a écrit cette chanson avec Glenn Buggy. Il me dit, mais pourquoi tu prends pas pour le plaisir? Je dis, ouais, comme ça en déconnant. Puis le soir, j'entre dans ma chambre, je dis, merde, c'est pas con. Pour le plaisir, c'est une vraie chanson de crooner qui a été mis en musique dans un style un peu pop. J'exagère un peu, mais presque un peu à l'idée. Et puis, de toute façon, Herbert Léonard, il a une voix de dingue. Moi, je suis incapable de chanter comme lui. C'est-à-dire, il a une voix, il chante comme Tom Jones, quoi. Il a une voix, une puissance extraordinaire. Donc, je me suis dit, là, on peut vraiment faire un travail inverse. C'est-à-dire, faire une chanson de swing, une chanson de crooner, où on va peut-être mieux entendre le texte. Finalement, on fait pas attention au texte quand on écoute la chanson d'Herbert Léonard, tellement sa voix prend le tout. Et alors c'est une vraie chanson de crooner. Je suis hyper content d'avoir adapté cette chanson. On a vraiment fait un écrin. C'est-à-dire si on écoute la musique, on n'imagine même pas que c'est cette chanson-là qui est plaquée dessus. Donc voilà, pour le plaisir. Et puis un tas d'autres chansons. Moi je les choisis en fonction des chansons que j'aime, des textes qui me touchent, aussi si les chanteurs m'ont fait rêver. Et puis savoir si on peut les adapter dans ce style. Parce que musicalement c'est très particulier, parce que les chansons que je prends sont souvent des chansons pop ou des chansons de variété. Alors c'est un peu technique, ils sont en binaire. Il faut les passer en ternaire pour qu'on arrive à faire du jazz avec. Donc elles passent pas toutes en ternaire, ça se passe pas toujours très bien. Mais en l'occurrence, celle qu'on a choisie, ça passe.
Comment ça se passe quand on veut reprendre des chansons comme ça? Est-ce que peut-être que ça intéresse nos auditeurs justement? Est-ce que tu dois t'adresser aux ayants droit? Est-ce que tu dois demander des autorisations de pouvoir les reprendre?
Alors, je vais vous dire la vérité, c'est très flou parce que je suis allé à la SACEM, j'ai rencontré des auteurs, des compositeurs, etc., etc. Et tout le monde m'a dit ah non, t'as rien à demander. Moi, je trouve chaud de prendre des chansons sans demander aux ayants droit, aux amis, aux compositeurs, aux autres. Je trouve que c'est chaud. Alors de pas m'adresser aux éditeurs, je m'en fous parce que les éditeurs, je trouve que déjà ils font pas super bien leur boulot. Puis ils répondent pas. De toute façon, j'ai envoyé 2-3 mails, personne répond. Donc voilà, bon, j'ai abandonné les éditeurs. Et puis moi, c'est plus une question de correction. C'est pas une question d'être ou pas dans son droit, c'est une question de correction. Donc oui, effectivement, pour Chez Lorette, j'ai eu Geneviève Delpech au téléphone, j'ai eu le compositeur Roland Vincent qui adore cette version, qui m'envoie des mails pour demander où on en est, etc. Hein. Pour le plaisir, évidemment, Julien Lepers et Evelyne Buggy. Evelyne Buggy adore cette version, mais elle préfère Chez Lorette quand même. Bon bref, à chaque fois je demande, évidemment, et j'ai eu... Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un refus. Je vous dirai pas de qui parce que ça m'a hyper touché. En fait, en vrai, personne n'a à le refuser parce que je ne dénature pas la chanson. Voilà. Mais rythmiquement, comme on y ajoute quelque chose ou qu'on y enlève quelque chose, en tout cas qu'on modifie un petit peu rythmiquement, c'est discutable. Ce qu'on appelle le droit moral. Bon, en fait, le droit moral, c'est l'idée de se dire qu'on prend une chanson, par exemple, mais qu'autour on raconte une autre histoire. Vous voyez, par exemple, si je prends une chanson et que je la mets dans une histoire d'une comédie musicale, et que l'histoire m'amène à amener cette chanson, elle lui donne peut-être un sens que l'auteur ou le compositeur ne voulait pas. D'accord? Donc ça, j'ai pas le droit de le faire, ce qu'on appelle le droit moral. Mais changer un petit peu la rythmique d'une chanson, normalement, j'ai le droit de le faire, si tant est qu'on ne change rien. On ne change pas la construction de la chanson, on ne change pas la mélodie, on ne change pas un mot, on ne change rien. Donc moi, j'ai rien changé, et si on écoute bien les chansons, je ne change même pas la vitesse. On a l'impression qu'elles sont un petit peu accélérées, mais même pas, elles sont même pas accélérées. C'est juste la rythmique qui change derrière. Moi, vraiment, je suis attaché à ce qu'on ne touche pas aux chansons, parce que moi, je les respecte plus que tout, les chansons. Non seulement je respecte les chansons, mais je respecte les chanteurs qui les ont chantées, ceux qui les ont composées, ceux qui ont écrit les chansons. J'adore cet univers des auteurs-compositeurs de cette période, donc je serais trop mal placé pour pouvoir y toucher.
On va en écouter un extrait, Jérôme. Lequel tu as envie là ? Tiens, qu'on balance maintenant.
Ah bah tiens, je ne sais pas moi. Bah prends pour le plaisir. Moi je trouve que c'est une très très belle adaptation de cette chanson. Et on y entend des choses qu'on n'entendait peut-être pas dans la première version. Donc c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel.
Allez, c'est parti pour le plaisir. Jérôme Antoni est notre invité à l'occasion de la sortie de son album. C'est vendredi dans les bacs.
Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement, lui sourire. Pour le plaisir, il faut savoir. Faire plaisir pour le plaisir.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. On continue à parler évidemment de l'album de Jérôme Antoni qui est avec nous. L'album qui sort vendredi, album de reprise des chansons préférées. Peut-être de Jérôme des années 60, 70, 80. Piocher dans un répertoire tellement riche.
On a un beau répertoire. J'ai toujours l'impression qu'on n'arrive plus à écrire des chansons comme on les écrivait à l'époque, mais peut-être que ben, maintenant les gens trouvent ça ringard, j'en sais rien. Mais en tout cas, celles-ci, elles ont toutes quelque chose qui nous rappelle un souvenir. En tout cas, moi, elles me font cet effet-là et j'imagine que tous ceux et celles qui aiment la variété seront touchés par ces reprises de chansons. Voilà.
C'était qui tes idoles à l'époque?
Bah, moi, quand j'étais gamin, forcément, il y avait que Claude François, quoi. Enfin, je veux dire, on n'avait pas le choix. Le seul M. Pokora de l'époque, c'était Claude François, quoi. Les autres, ils étaient vieillots, ils avaient des moustaches, ils avaient la chemise de travers. Ça n'avait rien à voir, quoi. Moi, j'ai adoré ensuite, plus tard, quand j'ai réécouté le répertoire de Sardou, j'ai adoré Sardou. Johnny, je trouvais qu'il était tout transpiré tout le temps, machin. J'étais pas trop attiré par ce genre de truc, mais plus tard, j'ai préféré Johnny à tout. Moi, j'ai été fan de Claude François quand j'étais vraiment tout petit. Et ensuite, de Balavoine. Vraiment, Balavoine, c'était vraiment mon idole. Et j'ai adoré tout son travail. Vraiment, c'est un mec qui a vraiment manqué trop tôt à la chanson française. Voilà.
Des références incroyables, évidemment, que tu nous cites là.
Bah oui, bah tant qu'à faire, autant prendre les meilleurs. Quitte à aimer quelqu'un, autant aimer le meilleur. Mais enfin, chacun puise et fait son choix dans tous ces chanteurs qui nous sont proposés. Moi, voilà, j'ai pris des chansons que j'aime beaucoup. Et je suis, voilà, quand je reprends par exemple Les Géants de Papier, j'adore cette chanson. Qui au départ devait être chanté par Sardou d'ailleurs. Je suis très copain avec celui qui l'a composé, avec Jeff Barnell. J'avais envie de lui prendre une de ses chansons à Jeff Barnell. Et au départ, je l'avais appelé pour reprendre Mourir sur scène de Dalida, que je trouve qui est une super belle chanson. Et puis je me suis dit, comment je peux dire mourir sur scène quand on démarre comme ça une carrière de chanteur? Je trouvais que c'était un peu prétentieux. Et puis toucher à Dalida, je sais pas pourquoi, il y avait un truc, j'y arrivais pas, quoi. Je trouvais qu'on y perdait au change. Voilà. Alors voilà, cette chanson, bah je trouve que Jean-Jacques Lafont l'a super bien interprétée, mais je peux pas dire que Jean-Jacques Lafont ait fait la carrière ni de Balavoine ni de Claude François, donc j'ai pas été attaché au personnage, mais je suis attaché à cette chanson et tout le monde s'en souvient de cette chanson. Et alors en swing, elle est vraiment top. Donc vraiment, je suis très content d'avoir réadapté cette chanson. Voilà, et c'est pour ça que j'ai appelé l'album Ma plus belle chanson, parce que finalement, à chaque fois qu'on entend une chanson qu'on aime, on dit c'est ma préférée. Mais en fait, c'est pas celle-là, c'est celle qu'on entendra un petit peu plus tard. On va se dire non, mais c'est celle-là ma préférée. Et quand on vous demande,
prend toujours plaisir à entendre. En fait, au moment où elle passe à la radio.
Et alors, il y a un effet que j'adore en radio, notamment quand on écoute des radios comme Nostalgie, par exemple, c'est qu'on entend dès les premières, on se dit ah mais ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle quelque chose, on sait plus quoi. Le couplet arrive, on se dit mais oui, ça m'embarque. Le refrain arrive, on se dit mais oui, mais bien sûr. Comment j'ai pu oublier cette chanson? Ben, c'est ma préférée. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'album. D'ailleurs, on a fait une chanson inédite qui s'appelle Ma plus belle chanson. Ma plus belle chanson, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une chanson qui a traversé le temps avec nous dans notre vie. Mais il n'y en a pas qu'une, il y en a toujours plusieurs des Ma plus belle chanson.
Ah, vous l'avez compris, hein, il faut pas rater cet album dans les bacs vendredi. Jérôme, on s'en fait une deuxième?
Oui, bah, en faisant une deuxième. Bah, on parlait des géants de papier, faisons les géants de papier.
Allez, moi en plus j'adore celle-là aussi, chanson qui a été chantée par Jean-Jacques Lafont à la base. Merci à toi Jérôme d'être passé nous voir. N'oubliez pas cet album et je vous dis à très vite.
Merci à vous, merci pour votre soutien sans faille.
Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. J'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse. Je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse. Je suis un géant de papier. Quand je la regarde, moi le velours, un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien j'aurai le plaisir de vous retrouver avec un invité exceptionnel. Yann Arthus-Bertrand viendra nous parler de son film Women qui sort le 4 mars au cinéma. Thierry Akendorn et Patrick Guérineau viendront évidemment nous parler de la série Camping Paradis qui va nous proposer un épisode inédit justement lundi prochain. Maïra Schmitt et Mathilde Lebrequier à l'affiche de la série Léo Matéri seront également des nôtres. Et puis Caroline Bourg, que vous adorez dans le rôle d'Elsa Bailly dans Plus belle la vie, eh bien sera également notre invité. De belles surprises encore en perspective lundi prochain dans Chute en écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur Android et iPhone, Chute on écoute la télé. Moi je vous retrouve demain sur Vogue Radio à 13h30 et 18h30 pour les quotidiennes. Pour la grande hebdo, ça sera lundi prochain à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente-Maritime sur mariemorin.fr. Chute, on écoute la télé avec vos boucheries du bœuf tricolore, viande 100% française, 3 points de vente en Charente-Maritime, avenue du 11 novembre à Rochefort, route de Rochefort à Royan et avenue du Général Leclerc à Saint-Pierre-d'Oléron.